Allez, place à la revue de presse, Claude Askolovitch.
France Inter, le 7-9.
Et mon cher Claude, depuis chez vous, vous nous parlez de liberté ce matin.
Et dans l'équipe qui règne sur un monde empêché, des hommes plus libres, plus forts que nous, les sportifs rencontrent leurs limites. Hier soir, les jockeys ont renoncé à leur tour après une dernière course sur un hippodrome à Marseille où un alezan de 3 ans s'est fait remarquer. Il s'appelle Another Planet. Mais voilà, il n'est pas d'autres planètes. Ce matin, Le Monde, sur son site internet, me montre New York immobile et déserte. Elle qui ne dormait jamais. Et sur notre coin de terre, les hippodromes ferment donc. Ils ont tenu un peu plus longtemps que les stades, mais désormais, footballeurs et canassons sont égaux dans l'immobilité. Mais ils restent au sport et à l'équipe le refuge splendide de la mémoire. Et ce matin, le journal me ranime Titouan Lamazou, qui il y a 30 ans, le 16 mars 1990, devenait le premier vainqueur du Vendée Globe Challenge, un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale ni assistance, à une époque artisanale que le journaliste Rémi Fière a eu la chance de vivre. C'était, dit-il, un temps à passer, la dernière soirée, avec des marins aux muscles moins tendres que le cœur, boire des bières mousseuses comme des embruns, puis les entendre raconter comme des poètes embarqués les affres et plaisirs de la solitude. Certains étaient partis avec des bouquins, d'autres larguèrent les amarres pour simplement réfléchir à la marche du monde et à la place de l'homme. Puissions-nous, dans nos confinements, être aussi heureux? Parmi ces poètes, Titouan Lamazou avait quelque chose à prouver. Il n'était pas un marin de naissance, mais un artiste venu à la voile qui voulait la reconnaissance de la victoire. 30 ans après, il est à nouveau peintre, installé en Polynésie. Il se demande si son fils pourra le rejoindre en dépit du virus. Nous voilà rattrapés. À la une de l'équipe, un homme constate que sa force est inutile. Le recordman du monde du décathlon, Kevin Mayer, ne peut plus s'entraîner ni concourir. Il va rater la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il faudrait par justice qu'on les repousse, ces Jeux, dit-il. Mais même s'il les rate, est-ce si grave? Il est ce matin un homme d'exception dans la misère de tous. Et c'est la question que remuent les journaux. Ce destin commun qui nous reprend par le confinement et par ces unes où un chef d'État nous répète dupliquer. Restons chez nous, nous sommes en guerre et nul ne peut y couper, sauf de rue. Le Monde et Libération me disent ces citadins qui sont partis pour la campagne avant le confinement et sur l'île Dieu en Vendée on s'inquiète de ces visiteurs, peut-être porteurs du mal. Dans la République du Centre, un coach sportif me donne quelques trucs pour me muscler chez moi. Je doute que cela suffise aux champions. Suis-je plus chanceux d'être simplement ordinaire?
On commente beaucoup l'intervention du président de la République dans la presse ce matin.
Et dans ses commentaires, il est dans Sud-Ouest une incongruité. C'est un article titré ainsi « En finir avec l'esprit de jouissance » qui veut expliquer le durcissement du président Macron. Citation. C'est quand il a vu ces Français masqués dans les parcs et jardins, vu autant de gens s'adonner à l'esprit de jouissance, selon ce mot d'un conseiller emprunté au Front populaire, qu'Emmanuel Macron a décidé d'intervenir. Fin de citation. Problème, cette expression, l'esprit de jouissance, ne doit rien au Front populaire, cette fête de la République. Elle est le mot d'un ennemi de cette République, le maréchal Pétain, qui l'utilisa le 20 juin 40 pour imputer aux faiblesses du peuple la responsabilité de la défaite. L'esprit de jouissance, disait le maréchal, l'a emporté sur l'esprit de sacrifice, on a revendiqué, on a voulu épargner l'effort, on rencontre le malheur. C'était du Pétain, ce n'est pas du Macron, mais cela vient d'un de ses conseillers, un culte ou pervers, qui a soufflé cette expression à un journaliste en pilotage automatique. Je lis dans les échos que le monde du cinéma voudrait changer les règles de distribution des films pour permettre à ceux qui sont impactés par la crise de vivre sans attendre leur vie en VOD. Parmi ces films, il en est un sur De Gaulle en 40, il pourrait être utile à certains. Il est d'autres manières de jauger le moment. Sur le site AOC, un philosophe et une économiste comparent la gestion française de la crise du coronavirus à la ligne Maginot, notre splendide ligne de défense bétonnée avant-guerre, mais qui donna un sentiment de confiance illusoire au pays démobilisé, puis envahi. Aujourd'hui comme à l'heure, nous croyons aux structures et aux experts, et nous perdons. Taïwan, démocratie concrète, a mieux réussi que nous à impliquer la société. Ce sont des discussions intellectuelles, mais que faire enfermer sinon penser le moins mal possible et regarder la vérité? L'opinion, vous en parliez à l'instant, me dit que l'armée aura du mal à suppléer aux défaillances civiles, car ses moyens sont limités. Le service de santé des armées pourra fournir 70 lits, pas plus, en renfort aux hôpitaux civils.
Et on parle aussi, Claude, des conséquences sociales de la crise.
Qui a déjà ramené au port la flottille de pêche de Boulogne-sur-Mer, je le dis dans la Voix du Nord, parce que les cours du poisson se sont effondrés. Et qui ferme aussi cette crise, les usines automobiles. Dans l'Est républicain, je lis cette phrase d'un salarié de Peugeot, renvoyé chez lui pour sa santé. La vie vaut beaucoup plus qu'un misérable salaire. Et c'est la deuxième partie de sa phrase qui me reste, misérable salaire. Ces articles portent une vérité plus durable que les conseils à la louche dont on nous abreuve pour traverser l'enfermement. Je retiens trois textes ce matin. Le premier dans Le Monde, qui m'aide à parler aux enfants de cette maladie qui peut tuer leurs aïeux. Le second dans Le Figaro, qui cite un médecin britannique qui renverse ma façon de penser. La plupart des gens ont peur d'attraper le virus. La bonne chose à faire, c'est d'imaginer que vous êtes déjà contaminé et donc tout faire pour ne pas le transmettre. Il me faut donc d'abord me penser coupable, malgré moi. Le dernier texte est dans La Croix, d'un philosophe qui m'invite à l'indifférence stoïque. Ne pas s'inquiéter de ce qui ne dépend pas de soi. C'est la solution, dit-il, que conseillait Mérimée à Stendhal, qui en 1832 lui demandait quoi faire devant l'épidémie de choléra en Italie. Mérimée lui répondit « 1. Tu te laves les mains. 2. Tu t'en fous complètement. On essaye. »
Merci Claude Askolovitch pour cette revue de presse. Il est